Et bonsoir à toutes et à tous. Reprise de l'invité de la rédaction en ce début février. Un retour politique avec un grand témoin ce soir, Jean Rottner. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le nouveau président de cette région Grand Est depuis la fin octobre 2017. Vous avez changé d'échelle, pourrait-on dire, en président désormais cette nouvelle grande région après avoir été à la tête de cette ville de Mulhouse. On reparlera de tout ça, bien sûr, dans cette émission. Le Grand Est, un territoire qui est marqué par l'actualité en ce début d'année. Vous avez fait votre cérémonie de vœux il y a quelques jours de cela à l'Arsenal de Metz. Beaucoup de thématiques abordées, l'Europe, l'économie, l'innovation, la politique, bien sûr. La gouvernance au sein de cette région Grand Est. Vous avez rendu hommage à votre prédécesseur. On va essayer de balayer large ce soir un inventaire non exhaustif que je viens de faire et qu'on va détailler avec Pascal Curie, avec qui je co-présente cette émission. Bonsoir Pascal.
Bonsoir Pierre Maurer, bonsoir Jean Rottner. Alors, on a appris vendredi la décision du Premier ministre de confier au préfet de région une mission pour aboutir dès 2018 à une solution d'avenir pour l'Alsace. Cette décision, dont se félicitent évidemment Brigitte Klinkert et Frédéric Bierry, montre que l'avenir de l'Alsace est devenu un sujet d'intérêt national, considéré comme tel au sommet de l'État, selon les présidents de ses exécutifs. Cette annonce est intervenue au lendemain de votre rencontre avec le Premier ministre. Est-ce que vous en aviez parlé ?
Oh, bonsoir déjà. Et vous imaginez bien que Édouard Philippe, effectivement, lors de notre entrevue, s'en est ouvert à moi directement, me demandant mon avis et mon accord sur cette démarche. J'ai eu l'occasion également, dans la même journée, de pouvoir échanger directement avec le préfet Marx pour savoir comment rendre publique cette annonce. C'est une décision qui vient du Premier ministre. Je me suis permis, effectivement, de lui faire un certain nombre de remarques. Je crois qu'il en a tenu compte, en tout cas, dans son courrier. Et aujourd'hui, cette démarche, sous 3 mois, doit permettre aussi d'être à la fois réaliste, efficace et concret. Et je pense que, en tout cas, de la part du Premier ministre, ce n'est pas une prise de conscience. C'est simplement peut-être d'essayer de sortir d'une situation qui ne mérite peut-être pas autant d'émotion et autant d'effervescence, mais simplement un certain nombre de principes de réalité. Ne pas oublier que nous sommes là, nous, les femmes et les hommes politiques, avant tout pour servir et pour être au service de nos territoires et de nos concitoyens. Et je crois que cette lettre de mission, tous les mots y sont pesés, et moi je m'en félicite.
Cette décision donc de Frédéric Bierry et Brigitte Klinkert, finalement, de pousser vers cette collectivité territoriale, c'est une démarche qui vous agace, que vous comprenez ?
Mais c'est avant tout leur décision, elle appartient à ces deux collectivités. Je leur ai écrit également la semaine dernière en leur proposant une méthode, en me rendant totalement disponible pour leur assemblée, pour les rencontrer, pour que je comprenne bien ce qu'ils souhaitent pour l'Alsace, comme je le fais d'ailleurs dans d'autres départements à l'échelle du Grand Est. Moi, je considère qu'il y a effectivement un désir d'Alsace, qu'il y a une possibilité pour les départements de fusionner ou pas, mais de travailler aussi clairement avec la région, qui est un partenaire. Vous savez, pour avancer, bien, il faut être souvent à plusieurs et avoir cette volonté affirmée d'un partenariat qui puisse être efficace. Là aussi, moi, j'attends de la part de Frédéric Bierry et de Brigitte Klinkert, comme de l'ensemble des conseillers départementaux, une forme simplement de travail en commun, au service de notre territoire, encore une fois, et au service de nos concitoyens. Il s'agit à un moment donné de mettre fin aux polémiques et d'être là pour assurer nos mandats et nos ambitions de mandat.
Est-ce que l'Alsace pourrait ressortir du Grand Est ?
Je crois que le président de la République a tranché. Ce n'est plus une question. Votre question n'est plus une question. Il a clairement dit, et c'est formalisé dans la lettre de mission adressée par le Premier ministre au préfet Marx, il est aujourd'hui hors de question d'envisager une sortie de l'Alsace, comme de tout autre territoire métropolitain, de la région auquel il appartient.
C'est Jean Rottner, le président de la région Grand Est, qui est notre invité ce soir sur Dreyeckland. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite.
Vous écoutez Dreyeckland, émission spéciale ce soir avec notre grand témoin, Jean Rottner, président de la région Grand Est, Pierre Maurer.
Alors on a parlé au début de cette émission de cette cérémonie de vœux qui s'est tenue il y a quelques jours de cela à Metz. C'est quoi? Ça reste un exercice, un passage obligé pour un président d'institution? On a raillé le coût de ces cérémonies. Vous attachez une importance à ce message politique fort du début d'année?
Oui, il y a des messages et des moments de la vie politique qu'il faut savoir assumer. Moi j'assume pleinement ce moment important des vœux, qui permet de dresser un certain nombre de perspectives. Je pense d'ailleurs qu'il serait nécessaire aussi pour moi d'avoir un moment politique de rentrée à l'automne. Je pense qu'avoir une parole publique, parfois plus rare, mais vraiment efficace, fait partie de ma personnalité, fait partie aussi d'une forme de proximité avec les acteurs de la société civile que l'on rencontre, avec des messages qui sont répercutés, des priorités qui sont données. C'est important aussi de rythmer une page politique régionale, bien de la parole effectivement de son président.
C'est un changement de style avec votre prédécesseur Philippe Richard. Vous l'avez fait applaudir, il était présent à cette cérémonie de vœux.
Il était présent, effectivement, je l'ai fait applaudir parce que, déjà par amitié, je l'avais invité personnellement pour qu'il nous rejoigne. Et je crois qu'il faut lui rendre hommage aussi pour le travail qu'il a réalisé, parce que ça n'a pas été un travail vraiment simple. Et il a aujourd'hui fait un choix, assumé, et d'ailleurs il le vit plutôt bien.
Alors justement, j'allais demander comment va Philippe Richert, et finalement, est-ce qu'il est toujours quelque part à vos côtés pour vous donner des conseils, puisque c'est pas évident quand même de devenir président d'une méga-région?
Alors non, je crois que Philippe, une fois qu'il avait tourné la page et qu'il avait décidé de le faire, pour lui, il a tourné la page. Cela n'empêche pas respect par amitié. Il y a des moments où je l'appelle pour prendre de ses nouvelles, pour échanger rapidement avec lui, mais il m'a laissé complètement... les clés de la maison, et bien, il faut rentrer dans le costard, comme on dit, et travailler, écouter, imprimer son style. La première question que se posaient peut-être les habitants du Grand Est et un certain nombre de partenaires, est-ce qu'il va pouvoir devenir président et est-ce qu'il va pouvoir remplacer Richard? Je crois que depuis 3 mois, je démontre que j'ai la possibilité de le faire. Et ensuite, est-ce qu'il va y avoir un nouveau style? Oui, il y a peut-être un nouveau style.
J'allais dire, c'est quoi? Il y a une gouvernance Jean Rottner, un style, vous le disiez, donc prise de fonction fin octobre. Qu'est-ce qui vous retenez de plus marquant depuis cette date?
Peut-être une énergie au sein de notre équipe renouvelée, un certain nombre de conditions, un travail en équipe aussi que j'apprécie tout particulièrement et qui fait que le président n'est pas forcément obligé d'être toujours sur le devant de la scène. J'ai d'autres vice-présidents, présidents de commission qui sont particulièrement actifs, qui sont présents dans les grands dossiers, qu'ils soient régionaux ou nationaux. C'est juste indispensable. C'est à l'échelle d'une région de ce type, je crois, nécessaire. Et pour que dans les territoires, l'esprit régional puisse bien diffuser, eh bien, nous devons être au contact. Et je pense que la région doit devenir de plus en plus une collectivité de proximité.
Pascal Curie.
3 anciennes régions, dans vos vœux, vous avez dit aussi que vous allez pouvoir faire ensemble ce que les anciennes régions ne pouvaient pas faire séparément.
Oui, il y a un effet masse. Il y a un effet masse vraiment indiscutable, par exemple dans les marchés publics, où la capacité d'avoir des coûts inférieurs est due à la grandeur de cette région. Il y a aussi, c'est vrai, il faut l'avouer, de manière tout à fait transparente et tranquille, il y a des dépenses supplémentaires liées au transport, liées aux déplacements, liées au temps de déplacement. C'est là aussi tout à fait normal. Dire le contraire serait mentir aux gens. Donc il faut assumer là aussi des effets de bord dus à la grandeur de la région, mais nous avons en termes de transport, nous avons en termes de marché public, nous avons par exemple sur le très haut débit, principalement sur le reste de la région, bien pu bénéficier et été les initiateurs au niveau national d'une forme de marge et de prise de conscience des opérateurs à faire baisser les prix. Et ça, c'est vraiment l'effet taille.
On continue de parler justement du développement dans cette région Grand Est avec notre invité Jean Rottner qui nous accompagne jusqu'à 20h sur Dreyeckland. À tout de suite. L'invité de la rédaction de Dreyeckland est de retour en ce début du mois de février avec comme invité Jean Rottner, le président de la région Grand Est, Pascal Curie.
Oui Jean Rottner, vous nous avez dit que la région pouvait faire des économies. Vous avez aussi annoncé une région du 21e siècle. Qu'est-ce que c'est une région du 21e siècle?
Je crois que c'est une région déjà qui se situe dans un environnement tout à fait favorable pour nous. C'est une région au cœur de l'Europe, une région dans laquelle bien, même si nous avons 40% de la frontière terrestre française, nous vivons en pleine action, en pleine réflexion, dans un espace européen régional de proximité. Ça, c'est une vision, je pense, qu'il faut de plus en plus nous imposer et savoir animer. C'est aussi, et vous connaissez mon appétence pour ces sujets, une région qui, à travers le numérique, par exemple, à travers les nouvelles technologies, bien, peut-être vraiment à la pointe. Je présenterai probablement d'ici le mois de juin un certain nombre d'axes de travail dans cette direction-là. Il faut que nous transformions en interne, que nous modernisions nos manières de faire, mais que nous préparions aussi le territoire à l'arrivée du très haut débit, à des usages renouvelés, à une capacité de travailler parfois en distance avec le télétravail. Ce sont aujourd'hui des modes d'animation d'un territoire, d'aménagement du territoire, qui permettent aussi, par exemple, de diminuer les mobilités. Et c'est important, et c'est, puisque je parle des mobilités, aussi notre capacité de nous transformer et d'inventer peut-être une image tout à fait positive à travers les énergies renouvelables et le développement durable, où nous avons des atouts incontestables.
Vous expérimentez, je ne sais pas, c'est une expérience pilote, on peut le dire, si quand même, donc les lycées 4.0, c'est quelque chose qui effectivement est scruté au niveau national par le ministère, hein. C'est quelque chose qui marche ?
Alors, on expérimente, donc il y a eu effectivement des difficultés, il y a eu des aspects techniques qu'il a fallu compenser, il y a aussi des éditeurs qui n'ont pas su être au rendez-vous au-delà de leurs promesses, et nous avons corrigé, rectifié, accéléré, et je pense qu'aujourd'hui nous sommes en ligne de mire d'une deuxième phase opérationnelle qui pourrait se développer à partir de la rentrée prochaine. Sous réserve également d'un bon contact, et j'ouvrirai ce dialogue avec les fédérations de parents d'élèves. C'est important que nous les associons à cette démarche. C'est important que nous associons les enseignants, et en tout cas l'éducation nationale, et j'ai encore déjeuné avec la rectrice de l'Académie d'Alsace la semaine dernière, montre que nous avons là un projet pilote et que nous sommes effectivement sous le regard de Paris.
On reste sur le numérique. Vous revenez de Las Vegas, où vous étiez, je crois, juste...
24 heures.
Voilà, il y a quelques jours. C'était concernant ce grand show mondial consacré à la technologie. Vous avez emmené des start-up du Grand Est. C'est ça aussi le visage de demain, le Grand Est qui innove. Qu'est-ce que vous attendez justement de ce déplacement ? Il y a un retour sur investissement qui est attendu ?
Alors, retour sur investissement, il n'est pas forcément pour la région Grand Est directement. Pour moi, je dois être le porteur de l'espérance des entreprises que nous emmenons, de ces jeunes et moins jeunes qui créent aujourd'hui de l'activité, qui savent innover, qui savent exporter finalement notre savoir-faire français et du Grand Est. Et notre volonté, ça a été de les accompagner, de les former et de leur permettre d'être le plus performant possible à Vegas face à un certain nombre d'interlocuteurs. Quand vous avez le patron de Renault, Carlos Ghosn, qui passe sur le stand parce qu'on est allé le chercher, parce qu'on lui a dit là qu'il y avait quelque chose qui pouvait l'intéresser, eh bien c'est pas anodin. Ça montre qu'il faut être aujourd'hui dans l'action politique, sur le terrain, à côté des entreprises, savoir les accompagner, savoir les encourager et user parfois de nos réseaux pour que le meilleur puisse se présenter face à elle.
Un tout petit mot puisqu'on a une échelle très importante. L'Europe, ça aussi dans les vœux, vous en avez reparlé. Reconnecter l'Europe avec les territoires et les agences, on vous parlera plus d'Europe territorialement parlant ?
Oui, c'est aussi nous être actifs dans l'Europe, c'est-à-dire que nous devons être actifs vis-à-vis de Bruxelles et de Strasbourg. On a une capitale européenne, il faut savoir la défendre. Mais c'est aussi être présent dans les grands dossiers européens. J'étais à Berlin, parler de l'apprentissage transfrontalier le jour de l'anniversaire du traité de l'Elysée. C'est pas pour rien. C'est parce qu'en même temps, je fais la promotion de mon territoire, je fais la promotion des initiatives et des belles initiatives qui s'y déroulent. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir de la cohésion, de la force et de l'ambition.
Et on est ensemble jusqu'à 20h ce soir pour l'invité de la rédaction sur Drake. L'invité de la rédaction, c'est ce soir sur Drake Land jusqu'à 20h. Nous sommes en compagnie du président de la région Grand Est, Jean Rottner, Pascal Curie.
Oui, nous allons parler à présent de train, Jean Rottner. Le rapport Duron sur les grandes infrastructures a été remis récemment au gouvernement et il a déclaré que la deuxième phase de la LGV Rhin-Rhône n'était pas prioritaire, donc c'est repoussé peut-être au calendrier grec. En tout cas, pas avant 2038, ça nous situe à une échelle de 20 ans. Votre réaction peut-être par rapport à ça ?
Eh bien, je ne suis pas content. Je ne suis pas content, je le fais savoir. Je fait savoir au Premier ministre la semaine dernière, parce qu'on se sentait bien venir. Philippe Duron avait déjà fait un rapport il y a quelques années et s'était déjà prononcé de manière assez défavorable sur ce tronçon de la LGV. dire qu'il réitère, donc ça ne m'étonne pas. Et dans l'échange que j'ai pu avoir avec lui, j'aurais insisté sur le secteur du sud de l'Alsace sur deux dossiers, celui de la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône et de la liaison ferroviaire de l'Euro-Airport. Il va falloir encore les convaincre, il va falloir encore aller se battre, il va falloir encore aller prouver à Paris que nos options, et quand on se veut européen, quand on se veut sur des corridors européens, mais la moindre des choses, c'est effectivement de finir le travail entamé. C'est pas le cas pour l'instant. C'est aussi ça l'action politique. C'est parfois exprimer ses désaccords et essayer d'aller convaincre. Ce n'est qu'un rapport. Il y a une loi d'orientation qui doit être fixée. Dans cette loi d'orientation, eh bien, nous devrons continuer effectivement à nous battre.
Oui, surtout que beaucoup d'argent a déjà été investi. Hein.
Oui, il y a beaucoup d'argent qui a été investi. Il n'y a pas beaucoup de kilomètres à faire, mais c'est quand même un peu, c'est quand même une somme conséquente. Mais au-delà de ça, c'est, vous savez, nous sommes sur un corridor européen. Ça veut dire que finalement, de la mer du Nord jusqu'à Madrid, nous sommes dans une stratégie que fixe l'Europe. Et ne pas faire ces kilomètres-là, c'est un signal extrêmement négatif qu'envoie notre pays vis-à-vis de l'Europe en disant bah, finalement, vos priorités, ce n'est pas nos priorités. Donc l'Europe, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va passer autre part. Elle va passer autre part, elle va passer de l'autre côté du Rhin, en direction de Gênes, et nous allons échapper, nous, à une capacité de transport, d'être sur des villes qui sont en réseau les unes par rapport aux autres. Et c'est donc défavorable pour nos concitoyens. Ce n'est pas une bataille politique, c'est la vie de tous les jours là, dont on parle. Et la vie de tous les jours à l'échelle de l'Europe. Et donc il faut vraiment bien, mouiller le maillot et essayer de persuader, de convaincre. Et je pense que c'est encore possible.
Alors autre application de la vie de tous les jours, justement toujours dans le domaine du ferroviaire, c'est cette finalité pour arriver à la concurrence sur le transport express régional. Là aussi, vous affichez une volonté très forte. Hein. Avant 2023, vous avez envie de faire rouler des trains qui ne seront pas des TER SNCF sur le réseau régional ?
Nous sommes prêts, première chose. Deuxième chose, c'est qu'effectivement l'Europe nous impose cette ouverture à la concurrence en 2023 et que nous aurons la possibilité, 2 ans avant, grosso modo, de pouvoir éventuellement le tester, d'être candidat à une forme d'expérimentation. Cette ouverture à la concurrence, nous la préparons avec la SNCF. La SNCF sera libre de candidater, mais d'être peut-être de candidater à des prix différents, dans une organisation différente. Et bien sûr, d'autres acteurs du transport, privés ou internationaux, pourront le faire aussi.
Quelles sont vos attentes vis-à-vis de ça? Des coûts moindres, je l'imagine, mais de nouvelles lignes? On parle de rétablir peut-être les liaisons transfrontalières, Colmar-Fribourg par exemple?
Oui, c'est possible de l'établir dans cette vision que certains souhaitent défendre, qui est le rétablissement d'une liaison du côté de Brisac avec une nouvelle ligne ferroviaire. C'est possible aussi de le faire dans des lignes aujourd'hui qui, pour la SNCF, sont des lignes non rentables, mais qui, avec une approche différente, une rentabilité différente et la présence, grosso modo, d'une démarche non pas publique mais privée, eh bien, peuvent permettre un retour sur investissement complètement différent.
Très rapidement aussi, sur l'état sanitaire, j'allais dire, de l'infrastructure, bon, c'est un problème récurrent, c'est que l'infrastructure ferroviaire en France est plutôt vieillissante. Qu'est-ce que vous, au niveau de la région, vous pouvez faire?
Déjà, on avance l'argent à l'État. La situation aujourd'hui, elle est celle-là. Le rétablissement de la ligne entre Saint-Dié et Strasbourg qui traverse la vallée de la Bruche, c'est la région qui avance l'argent à l'État, à la SNCF, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de réponse, mais que nous jugeons le rétablissement de cette ligne absolument essentiel pour nos concitoyens. On travaille pour l'Alsace, là. On travaille pour les gens qui, tous les jours, eh bien, effectivement, viennent de Molsheim pour aller travailler à Strasbourg. C'est pas une vie ou une région lointaine. C'est la vie quotidienne des Alsaciens, entre autres. Et là, eh bien, nous prenons nos responsabilités. Si l'État tarde à nous répondre, eh bien, nous pouvons aujourd'hui effectivement prendre les devants, mais nous ne pourrons pas le faire partout.
Merci Jean Rottner, vous êtes avec nous sur Dreyeckland ce soir. Merci d'avoir choisi Dreyeckland, émission spéciale ce soir avec Jean Rottner, président de la région Grand Est, Pierre Maurer.
Et on revient sur l'actualité et l'ancrage un peu plus local hein, de cette interview. Dossier Fessenheim, hein, on en a pas mal parlé aussi dans ce mois de janvier qui a été vraiment très politique et très riche en actualité. On rentre désormais dans le dur, dans le concret avec cette période de transition qui s'ouvre après la venue du secrétaire d'État Sébastien Lecornu. Quel va être le rôle de la région?
Déjà, moi, ce que j'aimerais saluer, c'est qu'on a enfin des réponses. On attendait confirmation, affirmation, méthode, tout cela, je dois saluer quand même la volonté de Sébastien Lecornu qui assume une décision, nous ne sommes pas d'accord avec, mais il faut en prendre acte et réagir. Réagir là aussi dans une forme de partenariat. La région, naturellement, dans ses responsabilités économiques, dans ses responsabilités en termes de développement durable, de schéma général d'organisation, assume pleinement un rôle à la fois de partenaire, mais également de leader sur un certain nombre de dossiers. Moi, je dois dire que ça se fait là aussi dans une forme d'intelligence politique entre les élus de l'hyper-proximité, communes, intercommunalités, le département, la région. On réfléchit aussi avec nos amis transfrontaliers, donc vis-à-vis en Allemagne. C'est tout à fait positif et profitable, et apprécié d'ailleurs par nos collègues. Donc l'esprit est bon, nous devons encore avoir des résultats. Le ministre a prévu de revenir en avril. D'ici là, nous travaillons, et c'est vrai que nous travaillons d'arrache-pied pour permettre au sud de l'Alsace d'être un territoire de référence, notamment dans les énergies renouvelables.
Fessenheim va s'arrêter, Bure va peut-être commencer. Bure, c'est dans la Meuse, pour un projet de centre d'enfouissement de déchets radioactifs. Alors, nous avons entendu aussi récemment Sébastien Lecornu, le secrétaire d'État, dire que finalement, le Grand Est aura peut-être une vocation de région chargée peut-être de la transition écologique, certes, mais aussi énergétique.
Tout à fait. Moi, c'est quelque chose que je défends. Je défends au niveau du Grand Est que nous soyons une région pilote, une région leader, finalement un hub du mix énergétique. Il y a l'énergie nucléaire, mais nous sommes la première région éolienne, nous sommes la deuxième région de production hydroélectrique en France. Nous avons des vraies qualités, des vraies valeurs ajoutées à une organisation qui peut se mettre en réseau et peut produire une forme d'économie, de la formation, de la réflexion, de la recherche fondamentale, la recherche appliquée. Il faut que nous arrivions aujourd'hui à plancher sur les énergies de demain. Certaines n'existent pas. On ne sait pas, là aussi, stocker déjà un certain nombre d'énergies qui existent d'ores et déjà. Donc nous devons nous mettre au travail et être là aussi dans une réflexion européenne, mais dans une réflexion française qui fait du Grand Est vraiment la région leader dans ce domaine-là. Et le Rhin tout particulièrement, et l'Alsace, ont une expérience, un savoir-faire qu'il faut savoir valoriser, qu'il faut savoir mettre en avant. C'est aussi ça le job de la région.
Alors vous parlez de stocker. Qu'est-ce qu'on fait de Stocamine ?
Belle transition, félicitations. Stocamine, il y a aujourd'hui une démarche des élus locaux aussi à laquelle je me suis associé pour que nous puissions être aussi des correspondants, loin peut-être de toute... émotion, mais avec des solutions extrêmement concrètes et extrêmement fortes. Le préfet a émis un avis, il y a peut-être encore une amélioration de ce dossier qui peut être fait, et je crois que là aussi, en élu responsable sur le territoire, nous saurons répondre aux attentes des habitants.
Un dernier mot sur un dernier dossier polémique, celui du GCO, le COS, le contournement ouest de Strasbourg, là aussi... Nouvelle impulsion, confirmation par l'État. C'était une réponse que vous attendiez, malgré le suspense écologique autour de la décision du Conseil national ?
Mais vous savez, ce que je conteste peut-être dans votre expression, c'est les dossiers polémiques. Ce sont des dossiers compliqués,
clivant,
difficiles, clivants, je suis d'accord, où il peut y avoir des différences d'appréciation, mais à un moment donné, il faut savoir prendre des décisions, il faut savoir arbitrer, il faut savoir aussi... bien expliqué. Le GCO, au-delà du contournement, c'est aussi permettre aujourd'hui, sur la ville de Strasbourg, sur l'Eurométropole, d'avoir un vrai dossier d'amélioration d'un boulevard urbain, de diminuer l'émission de particules fines. Donc, ce n'est pas simplement un contournement. Ce sont souvent des dossiers beaucoup plus complexes. Oui, nous attendions des réponses. Elles nous ont été apportées. Elles m'ont été encore confirmées la semaine dernière par le Premier ministre qui veut avancer vite et vite et bien. Et ça, j'apprécie.
Jean Rottner est notre invité jusqu'à 20h sur Drey et Clan. A tout de suite. Vous êtes sur Drey et Clan, dernière ligne droite pour notre émission de ce mois de février, de l'invité de la rédaction avec Jean Rottner, président de la région Grand Est, Pascal Curie.
Président mulhousien de la région Grand Est, alors Jean Rottner, depuis le mois d'octobre, vous êtes président de cette méga-région. Vous avez donc plus ou moins quitté Mulhouse sans vraiment quitter Mulhouse. Vous aviez déclaré à l'époque que vous seriez un maire à plein temps. Donc aujourd'hui, vous êtes plutôt Grand Est, vous êtes toujours encore à Mulhouse. Comment partagez-vous votre temps ?
Je crois que j'ai été effectivement un maire à plein temps. Et dans ce choix qui a dû être le mien à un moment donné, parce que l'opportunité m'était offerte de devenir président de la région. Ça a été un déchirement de quitter mon poste de maire parce que c'est une, vraiment un très bel engagement. C'est une ville que j'adore. Déjà, je continue à y vivre. J'essaie d'y revenir tous les soirs. J'ai ma famille qui est là, j'ai mes amis. C'est une ville passionnante, Mulhouse. Donc, je ne l'oublie pas. Je suis toujours actif au sein de l'équipe municipale.
Premier adjoint.
C'est quelque chose qui m'a été demandé par mon équipe. J'ai dit oui, j'ai réfléchi là aussi. Michel Lutz, qui m'a succédé, m'a demandé aussi de continuer à l'accompagner et à animer avec elle notre projet municipal. Donc voilà comment je répartis mon temps. Les choses sont simples. Oui, le siège est à la région. Je débute très tôt, je prends le train le matin. Je reviens souvent tard le soir. Je suis à Mulhouse et je continue aussi à avoir beaucoup d'attention pour cette ville. J'y ai des fonctions aussi passionnantes. Je préside par exemple le conseil de surveillance de l'hôpital de Mulhouse et de tous les hôpitaux environnants à travers le GHR. Et ce sont des sujets aujourd'hui d'actualité. On a beaucoup parlé des maisons de retraite, des EHPAD la semaine dernière. Il faut y être sensible. Nous y sommes sensibles et il faut essayer de trouver un certain nombre de solutions. C'est des enjeux budgétaires, c'est des enjeux d'aménagement du territoire. Tout cela continue vraiment à me passionner et je n'oublie pas Mulhouse et je n'oublie pas la région mulhousienne.
Comment voit-on Mulhouse depuis Metz ?
Comme une ville en transformation. Votre question est assez opportune parce que j'ai eu l'occasion la semaine dernière d'échanger avec d'ailleurs le préfet de région et le président du département de la Moselle sur ce sujet-là. Monsieur Marx ayant découvert Mulhouse dans une visite préfectorale il y a quelques jours, étant stupéfait de la capacité de résilience de cette ville, de sa volonté aujourd'hui de se transformer et d'avoir un véritable projet. Il me l'a exprimé comme ça, et Patrick Weiten, le président de la Moselle, me disait, mais tu sais, il a été un sportif et un pratiquant de volley assez averti, et il me disait, mais c'est une ville que j'ai toujours appréciée et qui m'a toujours impressionné, qu'il connaissait bien. Donc Mulhouse est une ville, parfois c'est encore une belle inconnue, mais ce qui est reconnu, c'est peut-être la transformation, l'ambition aujourd'hui portée par la capitale du sud de l'Alsace et cette volonté d'apparaître et de se transformer d'un point de vue économique. Ça, c'est vraiment noté.
Dans l'actualité aussi, il y a la situation au Parti des Républicains. Vous êtes toujours adhérent aux Républicains ? Est-ce que, comme certains élus, vous allez prendre un petit peu de large dans le Grand Est, à Mulhouse ?
Alors, je suis toujours adhérent des Républicains. Aujourd'hui, je me concentre essentiellement sur mon activité de président de région. Il faut, je crois, y porter beaucoup d'attention, de présence, prendre la mesure de l'ensemble des dossiers. Souvent, ce sont des dossiers très techniques. Cela étant, voilà, c'est pas parce que j'ai pris un peu de distance que j'en perds ma capacité d'émettre des avis et ma capacité d'avoir une parole publique sur la situation politique nationale et locale.
Et votre avis, justement, votre parole politique sur ce parti actuellement, quelle est-elle ?
J'ai dit l'autre jour, ça a été repris d'ailleurs par certains de vos confrères, qu'on peut avoir 42 ans et d'être déjà assez ancien en politique et apparaître comme étant ancien et avoir 51 ans et plein de fraîcheur. Ça tombe bien, j'ai 51 ans.
Eh bien, on se quittera sur ces paroles pleines de sagesse, de fraîcheur en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean-Rotner, ce soir. Une émission qu'on peut retrouver en réécoute, Pascal.
Tout à fait, et bien sûr, dans nos informations régionales. Merci Jean-Rotner.
Merci à vous.